Bonjour à tous et bienvenue dans La Boîte à Clés saison 2. La Boîte à Clés, c'est un podcast qui a pour ambition de vous aider à révéler votre potentiel et à vous faire passer à l'action. Je m'appelle Catherine Baudouin, je suis coach en développement personnel et professionnel et je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison et ce nouvel épisode. Mon objectif est d'aborder avec vous des sujets très variés, tant sur le plan personnel que professionnel, afin que chacun y trouve ce dont il a besoin. Pour cela, je pars à la rencontre de personnes qui ont des histoires de vie inspirantes pour qu'elles nous racontent et nous expliquent en première partie d'épisode leur parcours, leur état d'esprit, leur réussite et leurs enseignements. Enfin, dans une deuxième partie, je partage avec vous des outils et astuces pratiques en lien avec le thème de l'interview pour que vous puissiez mettre en application les choses dont vous avez besoin dans vos propres vies. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la notion d'hypersensibilité avec Céline Siritelis. Céline, de par son métier, accompagne les parents qui veulent retrouver un quotidien paisible. Elle est déjà venue sur le podcast lors d'un précédent épisode et elle m'a fait le plaisir de revenir pour aborder ce sujet qui m'intéresse particulièrement. Alors l'ambition n'est bien sûr pas de vous faire ni un cours théorique, ni d'aborder le sujet dans sa totalité, car c'est bien entendu impossible en 45 minutes, mais l'idée est plutôt de vous apporter quelques éléments de lecture et de compréhension de cette notion, et surtout, quelques clés pour apprendre à gérer, si je puis dire, soit l'hypersensibilité de votre enfant ou même la vôtre en tant qu'adulte. Donc sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Céline Siritelis, à la découverte de cette notion d'hypersensibilité et je vous retrouve juste après cette interview. Bonjour Céline.
Bonjour.
Merci une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation et surtout d'ouvrir le bal en fait de cette saison 2 du podcast La Boîte à Clés, puisque c'est le premier épisode de la saison 2 et premier épisode de l'année. Donc un grand merci à toi.
Merci, c'est avec plaisir.
Je suis vraiment ravie de t'accueillir cette nouvelle fois, pour une deuxième fois sur le podcast. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté, hein, je rappelle qu'on a déjà fait un épisode ensemble, c'était l'épisode 19 de la saison 1, où on avait parlé ensemble notamment de ton métier de coach parental, comment gérer une crise avec son enfant. On avait essayé de décrypter ensemble ce qui se passe à l'échelle des enfants, hein, ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Puis on avait aussi parlé de ton propre parcours professionnel et de ce qui t'a amené à devenir coach parental aujourd'hui. Et puis dans une deuxième partie aussi, j'avais parlé des accords Toltec, mais je ne vais pas y revenir ici. Hein, je laisserai les personnes qui ne l'ont pas encore écouté y aller. Aujourd'hui, on a décidé toutes les deux d'aborder un sujet qui nous intéresse particulièrement, qui est celui de l'hypersensibilité. Alors, en ce qui me concerne, pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet-là, tout simplement parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde aujourd'hui, beaucoup de personnes, a priori entre 15 et 25% de la population, hein, tu vas me confirmer, oui. Je pense ces chiffres-là, est considéré comme hypersensible et que ça touche tout le monde aujourd'hui. Ça peut toucher à la fois des enfants, dont on va parler ensemble, et aussi des adultes, et surtout dans tous les domaines de vie, c'est-à-dire que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement hypersensible à la maison. Ou hypersensible au travail. Et que du coup, ça peut toucher tous les domaines de vie et ça peut parfois même devenir assez compliqué, voire même pour certaines personnes, ça peut être un handicap. Je sais que moi, dans mon métier de coach, aujourd'hui, je rencontre beaucoup de personnes qui sont hypersensibles ou en tout cas qui ont des difficultés à gérer leurs émotions. Et qui viennent souvent me voir pour travailler sur ce point-là parce que ça devient effectivement difficile à gérer pour eux au quotidien, parce que ce que l'on constate, c'est que dans la société aujourd'hui, on vit plutôt en fait dans un monde où il ne faut pas montrer ses émotions, et surtout au travail. Même si les choses sont en train de bouger, en tout cas moi je pense, mais ça reste encore un sujet un petit peu tabou de montrer ses émotions au travail. Il faut savoir être courageux pour affronter le monde et montrer ses émotions et peut-être même un peu son hypersensibilité. Ça peut être mal vu ou ça peut être un danger, un risque de se faire marcher dessus par les autres. Donc ça peut aussi être un handicap, cette hypersensibilité, et notamment aussi pour les enfants à l'école, hein, au-delà des adultes au travail. Alors, juste pour rentrer dans le sujet, je te propose de tout simplement vous lire une définition de l'hypersensibilité et puis après on va creuser ensemble le sujet. Alors l'hypersensibilité en psychologie, c'est une sensibilité plus haute que la moyenne, provisoirement ou durablement, pouvant être vécue avec difficulté par la personne concernée elle-même ou perçue comme exagérée, voire extrême par son entourage. Cette notion renvoie à un tempérament, à une caractéristique individuelle qui permet d'identifier un ensemble clinique définie en 1996, donc c'est relativement récent, oui. Par Hélène Aron, dont tu vas nous parler aussi, je crois, et rattachée à une présentation empirique faite par Jung. Selon les recherches qui ont suivi, les individus hautement sensibles représenteraient entre 15 et 25% de la population, on l'a dit. Les caractéristiques de cet ensemble découlent d'une plus forte réactivité à une même stimulation, ce qui a des aspects positifs. Jung parle notamment de caractère enrichissant, mais qui peut aussi avoir des aspects négatifs, comme une sensibilité accrue, notamment à la peur. Alors, voilà une définition tout simplement que j'ai trouvée sur Wikipédia. Quelle définition, toi, Céline, tu ferais aujourd'hui de l'hypersensibilité ?
Je trouve que celle-ci, elle est exhaustive, donc elle rappelle bien ces questions de seuil. L'hypersensibilité, c'est, ça se joue énormément sur des seuils qui sont des seuils de perception très bas. Quand je définis l'hypersensibilité, j'insiste vraiment sur le fait que l'hypersensibilité est souvent associée à l'hyperémotivité, mais l'hypersensibilité, c'est autre chose que la sphère des émotions. Il y en a qui parlent d'hyperacuité, donc ça renvoie à ces seuils de perception très très bas sur les émotions que tu ressens et celles que tu perçois chez l'autre.
D'accord.
Donc ça, c'est l'aspect émotionnel et empathique. Sur tout ce qui est la perception sensorielle.
D'accord.
Ta sensibilité peut être sur... Enfin, elle va s'exprimer notamment différemment d'une personne à l'autre, mais l'hypersensibilité sensorielle, c'est le fait d'être très facilement ébloui, très facilement incommodé par du bruit, d'entendre des bruits dont beaucoup de personnes font abstraction.
Par une odeur, finalement par tous les sens.
Oui, des odeurs, on peut parler de changements, certains parlent de changements subtils, c'est-à-dire que tu as une capacité de voir des détails, de les percevoir, pas simplement par le sens de la vue. Et puis, tu as aussi certains auteurs qui intègrent tout ce qui concerne la proprioception, c'est-à-dire la conscience que tu as de ton corps dans l'environnement, de comment il est présent, comment il est orienté.
D'accord.
Et ça va être lié aussi, ça peut être lié aussi avec des notions comme le schéma corporel, etc.
Donc ça veut dire quoi ? Ce sont des gens qui se repèrent facilement
Ça peut s'exprimer de cette façon, se repérer facilement, ça peut... c'est très varié.
Mais, d'accord.
Donc je renvoie vraiment, c'est cette notion de proprioception, de la conscience de soi-même dans l'espace.
D'accord.
Donc on a parlé des seuils, on a parlé des différents niveaux, et ensuite la définition l'évoquait comme je ne sais plus quel était le terme exact, mais on voit bien que souvent c'est vécu comme une difficulté, chose qui peut être envahissant. Tout ça, c'est effectivement lié à la perception qu'on va avoir de l'hypersensibilité, ou plutôt la non-perception, c'est-à-dire que dès que tu es dans une prise de conscience, un décryptage de tout ça, finalement tu vas beaucoup plus pouvoir la concevoir... la vivre comme une force plutôt que
comme une faiblesse. Et comment on la repère, cette hypersensibilité, d'après toi ? C'est quoi les signaux, finalement ?
Ouais, alors, comment on la repère ? C'est une bonne question.
Parce que, je connais beaucoup de personnes, moi la première d'ailleurs, qui me considère comme une personne relativement sensible. Je peux avoir, par exemple, je peux être très émue par une situation, je peux facilement avoir la larme à l'œil, je perçois très facilement les émotions des autres. Ça ne veut pas forcément dire que je suis une personne hypersensible sur la dimension émotionnelle, j'entends. Donc comment à quel stade finalement on peut se considérer comme être hypersensible? C'est quoi les éléments concrets?
Ça va être plutôt alors les effets d'impact et ce sentiment que ça peut devenir envahissant.
D'accord.
C'est-à-dire que une personne hypersensible peut avoir un vécu très difficile quand il y a du monde, dans des interactions avec un groupe plutôt que dans l'interaction en face à face. Et tout ça, ça va très vite générer chez elle un inconfort qui va ensuite entraîner une remise en question sur « mais pourquoi moi je suis comme ça et les autres ont l'air très à l'aise et moi je ne le suis
D'accord.
pas ?»
D'accord, ok.
Sur tout ce qui est sensoriel, tu vas pareil... pouvoir être très, très fortement gêné par ça. Tant que tu n'es pas dans la prise de conscience, en fait, tu vas sentir ce truc très fort et avoir du mal à le raccrocher à quelque chose et du coup l'interpréter comme « je suis bizarre ».
J'ai un problème. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal chez moi. D'accord, donc c'est plus la conséquence en fait, derrière l'impact.
Et quand tu regardes les tests, alors L'hypersensibilité, ça n'est pas un trouble, ça n'est pas une maladie, donc il n'y a pas de diagnostic. Ce qui existe aujourd'hui, ce sont des questionnaires. Donc Hélène Aron, que tu as cité, en propose un. Dans ces questionnaires, tu as même des questions sur la réaction au café, par exemple.
D'accord.
Et il y a beaucoup d'hypersensibles qui vont réagir très fortement sur des trucs, comment on pourrait le définir, presque biochimiques, tu vois. Dans ces questionnaires, tu as des choses sur la sensibilité à l'art. C'est-à-dire que, et on va revenir sur la sphère émotionnelle, tu vas être très, très réceptif, très facilement ému par le beau, par l'esthétique.
Parce que ce qu'un tableau, par exemple, représentait, l'émotion que va avoir mis l'artiste dedans, ce genre de choses.
Ouais. Et en fait, on va revenir sur l'aspect de notion, de définition, c'est-à-dire que l'hypersensibilité, c'est finalement presque un peu une absence de filtre qui fait que tu reçois tout en premier plan.
D'accord.
Tu regardes une histoire au cinéma, un spectacle au théâtre, t'es dedans. En fait, il y a une distanciation qui est très difficile parce que tu le vis très fort. D'accord. Et ça, c'est pas toujours facile à vivre au quotidien.
Bah, ce qui est surtout compliqué à vivre au quotidien, c'est que en comparaison avec ceux qui ont justement ce filtre et qui du coup ne perçoivent pas les choses de la même façon qu'une personne hypersensible, du coup il y a une forme d'incompréhension en fait parfois dans la réaction qui va suivre, parce que comme le filtre n'est pas le même, voire même il n'y en a pas du tout, du coup la réaction n'est pas la même et il peut y avoir une forme d'incompréhension. C'est ça.
Oui, et je pense que du coup, une des manifestations que ça va pouvoir donner, c'est que tu te perçois comme étant différent, mais en même temps, dès que tu es dans des conditions favorables, tu te dis, mais attends, mais je suis quand même... Enfin, tu te perçois différent, moins bon, moins efficace dans certaines situations. Et dès que tu te mets dans un contexte qui va te correspondre, tu vas retrouver tes capacités. Et ça, c'est très déstabilisant. Tu te dis, bah, attends, mais je suis folle ou quoi? C'est-à-dire que je vois bien que je suis capable de faire tel truc, mais dès que je fais ça, j'ai plus aucune répartie, j'ai pas de répondant, mes idées me viennent plus, je suis mal à l'aise, ça se voit. Et du coup, ça crée presque un sentiment d'ambivalence entre, je comprends pas, il y a des fois, ça marche hyper bien, et d'autres fois, je me sens vraiment nulle.
D'accord. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner, toi, de personnes que tu aurais accompagnées ou des parents que tu aurais accompagnés qui ont des enfants hypersensibles concrètement dans le quotidien, comment ça peut se manifester,
se traduire
par des crises
Alors, c'est intéressant parce que du coup, on va poser aussi... Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui montrent qu'il y a une très grande part génétique dans l'hypersensibilité.
D'accord.
Donc, les parents hypersensibles font souvent des enfants hypersensibles. Sauf que...
Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que forcément, un enfant hypersensible...
À des parents
hypersensibles. Forcément des parents hypersensibles, non.
Après, c'est la génétique. Enfin, moi, c'est pas moi qui vais poser cette chose avec autant de... Enfin, ce principe avec autant de conviction. Mais quand tu as un enfant hypersensible, tu trouves souvent l'un des deux parents qui l'est.
Une réponse dans la génétique.
Dans une très grande... Enfin, moi, quand je les accompagne, on les trouve. Sauf qu'ils ne sont pas forcément dans la prise de conscience de leur propre hypersensibilité.
D'accord.
Parce que donc, l'épigénétique joue aussi. Et la façon dont tu as été éduquée quand tu es une personne hypersensible est déterminante sur ton rapport à ta propre hypersensibilité, ta prise de conscience de l'hypersensibilité et ton contrôle, ta maîtrise, ton vécu de l'hypersensibilité. Donc souvent, je rencontre des parents qui me disent « Mon gamin, il fait vraiment des trucs bizarres et je pense qu'il a une dent contre moi. Je lui mets le pull et là, il me dit que l'étiquette le gratte. »
D'accord.
Alors, soi-disant qu'il ne supporte plus aucun jean parce que c'est trop serré. Tu vois, donc très vite, par un parent, c'est réinterprété comme c'est contre moi. Donc, le sentiment que l'enfant le fait exprès, etc.
Qu'il est dans la confrontation, dans l'opposition.
Ouais. Okay. Et donc, ça, c'est un exemple. Donc, il y a des enfants qui sont très sensibles sur les vêtements, sur les matières, sur les textures que tu vas toucher, que tu vas goûter. Tu as des enfants qui sont très sensibles au climat émotionnel qui les entoure.
D'accord.
Et qui du coup vont fonctionner vraiment comme une éponge. Et là où tout le monde autour d'eux est convaincu qu'il n'y a pas de problème, parce
que c'est
tout
pas grave.
Est verrouillé.
Ouais, et qu'il n'y a pas
lui
lieu.
Lui perçoit le truc qui est verrouillé chez d'autres. Et je pense que chez un enfant hypersensible, c'est d'autant plus déstabilisant qu'il y a incohérence. Donc en fait, tu perçois un truc qui ne correspond pas avec ce qui t'est dit, ou la façon.
Oui.
dont l'autre se comporte.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a un double effet qui se coule quelque part, parce qu'il y a déjà, en tant qu'enfant hypersensible, moi, je perçois quelque chose qui, moi, me perturbe ou me crée un inconfort ou en tout cas une émotion qui n'est pas très agréable. Et en plus, potentiellement, mon entourage, pas systématiquement, mais mon entourage n'est pas en phase avec moi et le perçoit comme...
Bah, tout le monde fait comme si de rien n'était.
C'est ça, ouais.
Et là, c'est,
ou
là,
voire même,
c'est
on peut aller contre
louche.
Moi. Et, ouais, voilà, c'est ça.
Donc quand tu es double... très fort pour percevoir des signaux subtils, tu vas voir dans des traits du visage, dans des intonations de voix, dans des comportements, tu vas voir des incohérences qui peuvent augmenter. Donc le discours des parents, c'est mon enfant est débordé par ses émotions, fait des crises, etc. Bah, va augmenter ce phénomène qu'on décrit comme crise. C'est-à-dire l'inconfort de l'enfant qui le dépasse, qui le submerge, qui déborde, parce que justement il y a cette incohérence. Et cette incohérence, elle va parfois jouer encore plus fort quand tu as une maman hypersensible avec un enfant hypersensible. Alors ça, je dis maman, en fait c'est un parent, mais souvent j'ai les mamans qui sont qui me contactent et qui sont plus quantitativement présentes avec leur enfant. C'est-à-dire que tu mets ensemble une personne, la maman qui a un besoin de contrôle de ses stimulations sensorielles, donc ce qu'on va souvent dire, j'ai besoin de beaucoup de calme, mais qui du coup est dans une telle perception de l'environnement qu'elle va tout voir d'abord de son bébé, puis de son enfant quand il grandit. Donc c'est des mamans qui peuvent être déjà épuisées parce que elle voit l'orientation du soleil par rapport à la capote de la poussette. Tu tournes à l'angle de la rue, elles anticipent l'inconfort que le soleil va... Voilà, elles perçoivent, tu sais, chez les tout-petits, tu peux voir cette envie de manger, de succion, cette faim qui se traduit par des mouvements de succion de la bouche.
Oui.
Elles vont percevoir ça. Et quand, donc, elles ont cette espèce de monitoring constant de l'environnement, a fortiori, parce que t'es conçu aussi pour être hyper attentif. Enfin, le lien qui se crée entre la figure d'attachement, au-delà de la maman, et l'enfant, fait que la figure d'attachement doit se rendre disponible pour les besoins de l'enfant. Mais quand tu es déjà vraiment très dans ce truc d'analyse, de perception fine, ça peut être très énergivore. Et là, quand l'enfant grandit, donc tu as une maman qui a besoin de calme, mais elle est très sollicitée par tout ce qui se passe autour d'elle, a fortiori c'est une fratrie. Quand les enfants sont en bas âge, le calme il reste quand même souvent assez relatif. Là encore, quand la fratrie rebelote. Et donc, tu as une maman qui peut être très vite à cran, des enfants qui restent des enfants, mais les deux ensemble, ça peut exploser. Et si tu te dis, bon, je dois être dans le contrôle, je dois leur parler avec calme, leur demander des choses de façon positive, là, il va y avoir ce début d'incohérence qui va faire monter ton enfant hypersensible dans les tours.
D'accord.
En regard de toi. C'est ce que j'appelle un peu un effet de contagion, c'est-à-dire que tu veux calmer ton enfant alors que toi-même t'es submergé, mais du coup, tu peux pas calmer ton enfant parce qu'il sent cette incohérence.
Est-ce que tu as un exemple concret à nous donner d'une situation que tu aurais vécue avec des parents que tu as accompagnés ?
Oui, mais ces situations-là, c'est des situations vécues, c'est-à-dire que t'as la mère qui est convaincue qu'elle est en train de calmer son enfant.
D'accord.
Alors qu'elle est dans une retenue et l'enfant le perçoit
en fait.
Ouais, très finement.
D'accord.
Donc là, c'est vraiment sur des aspects émotionnels. On a parlé des trucs très sensoriels, émotionnels. Tu as des mamans qui décrivent ah, mais c'est infernal, le mien, on évoque parfois l'hypersensibilité. Elle me dit il n'y a aucune chance, le mien, j'allume l'aspirateur, il ne supporte pas, mais je ne pense pas qu'il soit hypersensible parce que par ailleurs, il est très bruyant.
D'accord.
C'est deux choses différentes et qu'il faut différencier. Mais beaucoup de personnes hypersensibles sont très vite dérangées par le bruit, les niveaux sonores. Et là où on dit que les bruits blancs, sèche-cheveux, etc. peuvent calmer certaines personnes, ils peuvent aussi être vraiment... tu vois des enfants qui crient quand
très agressif,
le sèche-cheveux, l'aspirateur est en marche.
D'accord.
Et le fait même qu'ils crient, pour beaucoup, invalide l'hypothèse de l'hypersensibilité parce que c'est bien connu, quand tu es hypersensible, tu es très calme, doux comme un agneau et délicat, puisque tu es hyper émotif. Tu vois, il y a aussi pas mal de
idées
reçues,
de confusion,
sur qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité.
Ce qui n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'on peut être un enfant hypersensible et à la fois, justement, ne pas être calme, posé, et être dans la réaction
Il y a une auteure qui est une psy, Emmanuelle Rigon, qui, dans son ouvrage, distingue 5 types d'hypersensibilité.
D'accord.
Alors, je trouve que c'est intéressant parce que, justement, ça donne plusieurs exemples, un peu comme la question que tu me posais, de manifestation de l'hypersensibilité. Et elle décrit très bien ce type-là d'hypersensibles qu'elle appelle les hypersensibles réactifs, mm-hmm. si je ne dis pas de bêtises, qui sont des personnes très sensibles à donc des trucs de contact sur la peau,
d'accord.
des bruits, des lumières, etc. Ouais, beaucoup sur le contact. Et qui vont en même temps sembler être des personnes très brutales, très... plus que gauche, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va te bousculer facilement sans s'en rendre compte, qui va facilement taper dans les portes, jeter des objets, etc.
Qui va réagir...
Et qui, en fait, c'est l'hypersensibilité qui génère cette réaction-là.
D'accord. Alors, du coup, comment, justement, pour les parents, réussir à déceler ce qui relève de l'hypersensibilité ou ce qui pourrait déceler peut-être plutôt d'une crise ou d'un caprice. Tu parlais tout à l'heure d'étiquette sur le pull ou de jean qui serre trop. Tu nous parlais de questionnaire, en fait, parce qu'on disait que c'est pas une maladie, c'est pas un trouble, donc il n'y a pas de diagnostic... Il n'y a pas de diagnostic médical.
Non. En revanche, tu soumets à une personne hypersensible qui ne le sait pas forcément ce genre de questionnaire et très vite, ils se reconnaissent dedans. Tu
d'accord.
Vois. Ils répondent la même chose à café, art, etc. Enfin, ils répondent oui à la plupart des questions. Et pour les parents d'enfants hypersensibles, c'est ça. C'est-à-dire que tu lis par hasard un bouquin sur le sujet et tu dis, mais c'est pas possible, on parle de mon enfant.
Oui, c'est ça. Il y a trop de points qui font que...
Ça, c'est très révélateur. C'est-à-dire tu lis des choses sur l'hypersensibilité et tu reconnais la personne.
Tu peux te reconnaître aussi toi.
Te reconnaître toi-même.
Ouais.
Donc après, il y a plusieurs choses. La première, d'une manière générale, prendre au sérieux ce que dit un enfant, c'est toujours utile pour un parent, que ce soit un enfant hypersensible ou non.
Mm-hmm.
Et je le disais dans le... cette relecture des accords Toltec, rien de personnel. Il te parle de l'étiquette, c'est pas forcément pour te rendre te faire tourner en bourrique.
Ce que tu disais tout à l'heure, l'enfant qui veut pas porter son pull parce que l'étiquette le gratte ou que le jean est trop serré, ça veut pas forcément dire qu'il est dans la confrontation et qu'il veut s'opposer à moi en tant que parent.
Donc prendre au sérieux, c'est une première partie qui va te permettre de voir si ça suffit pour vous à débloquer les situations, enfin pour un enfant et son parent à débloquer la situation. C'est-à-dire que j'ai accepté que pour lui, un manteau très épais soit une réelle gêne.
D'accord.
Et dès que je lui mets un manteau pas épais, je réponds à mon besoin de me dire je vais couvrir mon enfant.
Suffisamment pour qu'il ne soit pas malade.
Voilà.
Okay.
J'arrive à concilier mes besoins de prendre mon
de
rôle
prendre
de parent.
Enfant, bien sûr.
Mon besoin, c'est mon rôle. Le besoin de mon enfant d'être couvert, mais en même temps d'être dans une situation confortable pour
de
jouer.
De se sentir à l'aise dans son...
Et donc
là,
finalement, tu n'as pas tant besoin de l'étiquette de l'hypersensibilité. Dans un sens, tu t'en fiches, tu prends au sérieux.
Bien sûr.
Tu essaies d'ajuster et bingo,
et ça fonctionne.
Ça résout ta situation. Après, quand ça devient plus envahissant sur plein de situations du quotidien, quand ça donne à chaque fois lieu à des incompréhensions et à une escalade de... il se fiche de moi, donc je vais encore plus resserrer les boulons. Et donc le gamin, il a encore plus mal, donc il dysfonctionne davantage, en fait. Là, ça vaut le coup de faire le point. Et souvent, je dis souvent que rien que le décryptage, il est une première étape. C'est une première étape
qui
est très
aidante.
C'est-à-dire que tu dis à un parent... il commence à te dire, c'est très bizarre l'habillage, il me fait tourner en bourrique, soi-disant qu'il ne supporterait pas les vêtements. Enfin bon, on ne va pas vivre tout nu. Mais dès que tu creuses un peu, je ne pouvais jamais lui changer une couche quand il était petit, il ne supporte pas que je le serre contre moi. Donc très vite, tu vois un certain faisceau de...
Tu prends du recul sur l'ensemble de la situation.
De traits. Et dès que tu... dans un premier temps, le décryptage qui consiste à poser cette étiquette, tu vas faire baisser les parents d'un cran en pression et réouvrir des voies.
D'accord.
Donc décrypter, c'est dans tous les cas une première étape qui est hyper importante. Ensuite, ce qui va fonctionner aussi, c'est de décrypter pour l'enfant. Donc tu vas verbaliser, mettre des mots et l'aider à se comprendre lui-même.
C'est-à-dire que tu vas expliquer les choses à l'enfant ?
Ouais, tu peux toujours expliquer. Quel que soit l'âge, il y a une façon de le faire. Donc pour lui, ça va lui donner une grille de lecture de lui-même qui va lui éviter de prendre la voie de « décidément, je suis vraiment bizarre, pas comme les autres » et l'anxiété que ça peut générer. Mmh. Donc, tu vas pointer que, effectivement, il refuse de mettre ce vêtement et tu peux dire à voix haute « ah ben oui, laisse-moi deviner, c'est la ceinture.
Oui, »
Ok, alors aide-moi à trouver un vêtement. Quelles sont les ceintures que tu aimes ? Et on cherche dans l'armoire qui correspond davantage. Est-ce que tu as remarqué que toi, à chaque fois, donc il faut que la prochaine fois qu'on achète des vêtements, pour toi, on prenne que des choses avec une ceinture en élastique ou que des choses amples ou au contraire que des choses près du corps, hein, parce que être sensible sur les vêtements, ça ne veut pas dire que forcément tu veux que des amples ou que des près du corps. Tu as vraiment les deux cas de figure. Tu as des enfants qui voudraient être en legging tout le temps parce qu'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de présence du vêtement. Et tu en as d'autres qui voudraient que des choses qui ne servent pas pour pas que ça entrave le corps. Donc, le décrypter pour lui, les enfants qui ont été très submergés par un spectacle, tu peux le dire aussi. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on vit un spectacle, qu'on assiste à un spectacle, toi, tu le vis très intensément. Et est-ce que tu vois qu'après, tu te sens beaucoup plus fatigué ou tu pleures plus facilement, tu t'emportes plus facilement, etc.
Que du coup, ça t'inquiète.
Apporter un décryptage. Donner des clés. Alors attends, juste apporter un décryptage, c'est important aussi donc pour cet aspect d'estime de soi qui est primordial, donc pas trop se sentir complètement différent mais pouvoir s'accepter en fait.
C'est vraiment ça, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est cette notion de s'accepter, c'est de pas le mettre sous couvert de bah oui, toi tu es différent parce que tu fonctionnes comme ça, mais juste voilà, c'est ton fonctionnement et c'est comme ça, tout est OK.
Voilà,
tout est OK c'est comme ça et juste on prend conscience de ce fonctionnement-là pour pouvoir s'adapter au mieux, en fait.
Oui, parce qu'en fait, dès que t'en tiens compte, que tu l'intègres et que tu y réponds, tu te sens bien, en fait.
T'es déjà libéré d'une partie du poids, en fait.
Et donc, décrypter pour l'enfant, c'est important pour son estime de soi, son acceptation. Et c'est important aussi pour ensuite travailler sur la recherche de solutions. Alors, la recherche de solutions, elle est hyper vaste. Tu vas aussi bien être dans des choses très simples et accessibles pour les parents. On passe en revue, je reste sur l'exemple des vêtements. On passe en revue ta garde-robe et on fait en sorte de plus se disputer tous les matins parce que moi, j'ai l'impression que tu veux mettre qu'un seul vêtement, que tu refuses de le laver. Et moi, j'ai pas trop envie que la maîtresse, elle te voit tous les jours habillée pareil. Donc, de passer en revue pour que tu aies plusieurs vêtements que tu aies envie de porter, que quand tu en es au linge sale, tu en aies d'autres qui te conviennent, etc. Mais on peut aussi, les solutions elles vont parfois être dans des choses qui vont accompagner le corps, donc des fois un ostéopathe, un éthiopathe vont pouvoir être une partie de la solution. Pour les enfants qui ont des sensibilités très fortes sur tout ce qui est alimentaire, qui n'aiment pas la nouveauté, qui n'aiment pas certaines textures ou qui n'aiment pas certaines couleurs, etc., je sais qu'il y a beaucoup il existe des ergothérapeutes qui accompagnent ça spécifiquement sur l'aspect alimentaire pour changer de regard sur ce qui cause des dégoûts à ces enfants, trouver des techniques pour réintégrer doucement par le plus acceptable.
Pour désensibiliser.
Je ne sais pas si c'est désensibiliser, mais ça peut être déconstruire. Parce qu'en fait, quand tu as une très grande sensibilité, tu peux cristalliser autour des dégoûts, des peurs, des angoisses, tu vois. Et en fait, dès que tu déconstruis les deux, tu vas pouvoir vivre différemment le truc qui te déclenchait cette angoisse.
Bien sûr.
Ou ce dégoût.
D'accord.
Donc j'ai parlé des ajustements dans la vie de famille, des ajustements avec l'aide de professionnels. La parole aussi, parfois, permet de justement d'aborder toutes ces associations qui se sont faites et qui génèrent un inconfort en plus de l'hypersensibilité.
En tout cas, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, dans ce qu'il est possible de faire une fois qu'il y a eu cette prise de conscience, c'est que l'idée, ce n'est pas de lutter ou chercher à aller contre cette hypersensibilité ou faire en sorte qu'elle disparaisse, puisque dans l'absolu, je doute que ce soit possible. Mais c'est en tout cas de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde, que ce soit à l'enfant ou aux parents, pour vivre au mieux cette hypersensibilité, c'est ça ?
Oui, parce qu'après, tu as deux stratégies, la gestion et l'évitement. Donc, il y a des choses où tu vas pouvoir travailler sur l'évitement. Mais si ton enfant, il trouve qu'il y a trop de bruit dans le repas de famille, tu ne vas pas forcément pour beaucoup de parents, faire manger un enfant à part, ça va souvent à l'encontre de valeurs familiales, de le repas, c'est à la fois pour se nourrir, pour partager un moment de convivialité, etc. Mmh. Donc l'évitement
et à la fois demander à tout le monde de se taire pour répondre aux besoins de voilà, ça peut aussi aller à l'encontre ces valeurs-là. Ça, ouais. Donc
et puis très vite tu vas dire c'est pas juste pour les autres, etc.
Bien sûr. Donc comment tu fais pour trouver
donc les étiquettes, tu peux gérer de l'évitement, les coupants, les vêtements, etc. Et il y en a d'autres, tu vas travailler sur la gestion, c'est-à-dire plus tu et là encore le décryptage est essentiel, plus tu décryptes ce qui se passe.
Ce qui se passe à l'échelle de l'enfant.
Plus tu toi et l'enfant, vous pouvez le comprendre et accepter de le vivre, mais plus aussi tu peux t'orienter vers des clés. Mm-hmm. C'est-à-dire que, tu vois, à l'école, il y a des enfants pour qui porter un casque anti-bruit, c'est une solution.
D'accord.
C'est-à-dire que tu ne vas pas faire taire les autres, mais lui, il a envie d'aller à l'école, il a besoin d'aller à l'école, il aime ça, etc. Mais trop de bruit, le fatigue, voire crée des distractions, hein, parce que. Le fait de tout percevoir sans filtre, ça peut aussi donner des comportements que certains parents associent à un trouble de l'attention. Mmh. Puisque tu vois tout, tout peut tout d'un coup te détourner de ce que tu étais en train de faire, surtout si c'était pas ce qui t'intéressait le plus, bref, que tu avais une certaine disponibilité. Donc, tu vas toujours, en décryptant, cheminer forcément vers la clé qui va correspondre à ton enfant, autant que vers l'acceptation de ce que je suis en train de vivre.
D'accord.
Pour les tout-petits, c'est difficile. Il va plus tu vas travailler sur... L'évitement va permettre de reprendre pied et ensuite de se reconfronter avec des clés, des solutions.
Okay. En tout cas, il y a toujours une solution, il y a toujours une clé. Est-ce que cette... Là, tu parles par exemple du casque anti-bruit. Pour autant, est-ce que ça ne peut pas créer, renforcer ce sentiment de « je suis différent et je ne suis pas normal » parce que... effectivement, moi, je suis dérangée par le bruit et du coup, la solution, ça peut être en classe de porter un casque anti-bruit et pour autant, les autres n'ont pas un casque anti-bruit.
Ouais, ça, c'est souvent des... Moi, c'est une grille de lecture que j'invite à recadrer à chaque fois. Mm-hmm. Donc, il y a des maîtresses qui disent « Non, je ne peux pas me permettre de lui mettre un casque », qui anticipent des moqueries qui ne sont pas toujours avérées. Des maîtresses... Enfin, je dis des maîtresses, des enseignants qui... anticipe aussi d'autres réclamations et qu'est-ce que vont me demander les autres parents. Moi, j'invite toujours à se dire « Bon, mais attends, pour l'instant, c'est cet enfant-là et n'anticipons pas les réactions des autres. »
Ne va pas se passer, d'ailleurs.
Et de fait, dès que tout ça est présenté dans un discours cohérent, orienté sur les besoins de l'enfant...
Mmh, bien sûr.
Tu vois, c'est comme les disputes entre frères et sœurs. Si t'es coincé dans un truc « Mais puisque je te dis que je fais pareil pour vous deux, regarde la preuve... » tu vas alimenter des rivalités, des disputes, etc. Alors que si tu ramènes l'enfant à chaque fois, mon attitude, elle est sur me concentrer sur répondre à tes besoins, sur la taille les enfants qui se disputent pour la taille du biscuit, tu vas les interroger sur quelle est la taille de ta faim. Ok, donc j'ai qu'un biscuit, je l'ai partagé en deux, c'est pas assez pour ta faim, qu'est-ce qu'on cherche d'autre pour que tu aies assez à ta faim. C'est pareil dans la gestion d'une fratrie, d'un ensemble, d'une classe. N'anticipons pas les difficultés des autres, laissons un peu nos peurs de côté et c'est souvent vertueux de prendre en compte le besoin d'un enfant. Ça va lui permettre de fonctionner de façon harmonieuse dans son environnement. Donc avant, où il était moqué parce que il se mettait les mains sur les oreilles, il a un casque coloré, maintenant c'est presque branché dans les salles de concert, d'emmener ton enfant du moment qu'il a un casque fluo, etc.
C'est vrai.
Tu vois,
tout à fait.
Tout ça c'est des images qu'on se fait.
Bien sûr.
Et si c'est que ça qui s'oppose à faire porter un casque anti-bruit pour qu'un enfant se sente mieux, c'est dommage.
Bien sûr, on est d'accord. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais juste pour revenir sur ce point-là, pour toi, quelles sont les principales forces, finalement, puisqu'on a dit que ce n'était pas une maladie, que ce n'était pas un handicap, quelles sont les principales forces d'une personne qui est hypersensible ?
Cette hyperacuité... devient très vite une force dans tout ce qui concerne l'analyse. On dit que les personnes hypersensibles sont de très bons conseillers.
D'accord.
Parce qu'en première ligne, tu es trop exposé pour faire le tri, mais en seconde ligne, tu es tranquillisé. Tu n'agis pas, mais tu es juste celui qui chuchote à l'oreille, tu vois.
D'accord.
Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'analyse, de la perception, de la compréhension des choses, dès que tu es en situation confortable en tant que personne hypersensible, tu vas vraiment être très puissant là-dedans. Parce que c'est ce qu'on appelle donc ces changements subtils. Tu vas voir des choses très fines, avoir un sens du détail très élevé, pouvoir intégrer des choses que les gens n'ont pas perçues, mais qu'ils subissent quand même, tu vois. C'est ce qui fait la force aussi d'un parent hypersensible avec un enfant hypersensible, c'est-à-dire que tu peux anticiper que ça, ce soit une gêne pour lui. Donc, dans tous ces registres-là, c'est très fort. Après, dans... aujourd'hui, voilà, on cherche comment développer l'empathie, l'altruisme chez nos enfants. Là encore, être très sensible à tes propres émotions et percevoir celles des autres, dès que tu l'as apprivoisé, c'est une grande force.
C'est une grande force, bien sûr. On le voit dans le monde du travail, hein, il y a une notion qui se développe énormément, c'est la notion de soft skills. Et les soft skills qui sont les plus demandés aujourd'hui en entreprise, ou en tout cas attendus d'un collaborateur, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de l'empathie et de l'intelligence émotionnelle. Donc ça revient à ce que tu expliques là. Hein, c'est le fait de réussir à décrypter, de comprendre son fonctionnement, ses propres émotions. Et une fois qu'on a compris ça, c'est une force et ça permet encore plus de comprendre l'autre finalement.
Et donc il n'y a pas que les hypersensibles qui ont ça, bien entendu.
Bien sûr, bien sûr.
Ce côté très intuitif.
Capacité
de compréhension de trucs complexes où tu rentres dedans, tu sais pas comment, mais toi, par des signaux que tu perçois, tu es rentré dedans par cet angle-là et ça t'ouvre des pistes. Tout le monde peut développer
dans
ça.
Oui, bien sûr.
Par contre, quand tu es hypersensible, tu aurais techniquement un accès plus facile à ça, sous réserve que tu n'es pas tout verrouillé en fait.
Donc, que dès tu t'autorises.
Que tu saches l'appréhender en fait.
Ouais.
Tant que tu es dans un truc, c'est bizarre, mais. Tout le monde semble faire comme si c'était normal et moi, je dois aussi faire comme si tout était normal, ben, c'est une forme de verrouillage. Mais dès lors que tu arrives à le voir, à trouver une façon acceptable de le signaler, d'attirer l'attention des autres, ben, finalement, tout d'un coup, ça devient un truc dont on peut parler,
bien sûr.
Que toi, tu perçois, qui te remet en situation de confort et qui apporte un confort à l'ensemble du groupe. C'est un accès privilégié à pas mal d'informations, en fait. Sur l'accès à la complexité aussi, les personnes hypersensibles ont un peu ce côté je pense trop qui peut être très envahissant. Dès que tu sais aussi comment un peu le canaliser, tu vas apaiser tout ça et en tirer le meilleur parti. Et donc c'est un fonctionnement qui permet d'aller vite, d'accéder à certaines complexités en prenant d'autres chemins.
Bien sûr. En off, avant qu'on commence à enregistrer, on avait commencé déjà notre discussion et il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne. Quel lien toi tu fais entre l'hypersensibilité et la notion de QI ou
de haut potentiel.
De haut potentiel, voilà.
Moi, de ce que j'en comprends, alors pour parler de qui dit quoi, concrètement, tu citais Hélène Aron, donc cette psychothérapeute, chercheuse en psychologie américaine qui a mis cette étiquette d'hypersensibilité, qui parle aujourd'hui de personnes hautement sensibles.
Oui.
Donc elle a établi cette proportion à 15-20% et aujourd'hui on revient là-dessus. Enfin, on reste là-dessus, je veux dire. Elle a apporté aussi des confirmations sur l'impact génétique, des proportions chez d'autres primates aussi.
D'accord.
de ce type de fonctionnement, qu'on n'a pas toujours appelé de la même façon, j'y reviendrai aussi. Et sur l'aspect de haut potentiel, moi je suis de très près les travaux d'une équipe qui est sur Lyon, qui travaille sur le haut potentiel et qui est connue pour avoir décrypté les différents types de haut potentiel et établi des caractéristiques du haut potentiel. Trois caractéristiques fondamentales, dont une qui est l'hyperacuité.
D'accord.
Quand tu lis ce qu'ils entendent par hyperacuité, finalement, c'est ce que d'autres appellent hypersensibilité, c'est-à-dire ces seuils de perception abaissés.
D'accord.
Sur des notions émotionnelles, sensorielles, proprioceptives.
D'accord.
Cette équipe, moi, je m'intéresse à ses travaux parce qu'elle arrive toujours à faire le lien entre la clinique, les tests de QI, donc le WISC, pour le WISC 5 pour les enfants là en ce moment, et puis le WISC pour les adultes, et puis l'imagerie cérébrale. Donc là, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que ça va dépasser mes compétences, mais chez eux, donc, tu vois que grosso modo, toute personne, enfin l'hypersensibilité est une caractéristique du haut potentiel.
D'accord.
Et le haut potentiel, c'est statistique, enfin, c'est une courbe de Gauss, donc c'est 2,5% de la population.
D'accord.
De façon stable, puisque c'est un phénomène de répartition.
D'accord.
Donc, si je reviens sur les chiffres, tu as, grosso modo, toute personne hyper à haut potentiel aurait une hypersensibilité.
D'accord.
Mais toute personne hypersensible n'est pas à haut potentiel. Est-ce que d'accord. ça répond à la question ? Et cette... aujourd'hui, on parle un peu d'effet de mode, etc. Il y a plus un effet d'étiquette que de mode, parce que donc, typiquement, le haut potentiel, comme c'est cette courbe-là, il reste sur la même tranche.
Mm-hmm. C'est pas un phénomène nouveau, en fait.
C'est pas un phénomène nouveau.
C'est juste qu'on en parle plus.
Ouais, et moi, ce qui m'avait marqué, c'est que tu prends le bouquin d'Hélène Aron, qui est un des références, qui est sorti qui est maintenant disponible en poche. Aujourd'hui, tu l'achètes, il s'appelle Hypersensible, mieux se comprendre pour s'accepter. Mm-hmm. Ce livre, il a paru aux États-Unis en 96. Sous un terme, je ne l'ai plus en tête, mais grosso modo, c'était Hypersensible aussi. Quand il a paru pour sa première traduction en France, il s'appelait Ces gens qui ont peur d'avoir peur.
D'accord.
En fait, l'hypersensibilité aujourd'hui, c'est une étiquette qu'on met sur des choses qu'on a appelées timidité, introversion maladive, peur d'avoir peur, etc. Mais c'est quelque chose qui est quand même présent et qu'on appréhende d'une façon différente aujourd'hui.
Mais qui a toujours existé. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut mettre des noms, il faut faire des catégories pour pouvoir rentrer dans des cases et dans des normes, ou justement pas rentrer dans ces normes.
Et les recherches qui sont faites, par exemple, sur des primates, sur ce sujet-là, c'est des recherches qui étaient d'abord adressées sous l'angle du stress. Où tu observais que tu avais certains éléments d'une troupe, en fait, qui paraissaient plus sensibles au stress.
D'accord.
Et en fait, c'est ça qu'on raccroche aussi sur les aspects génétiques sur l'hypersensibilité, avec des fonctionnements hormonaux qui sont identifiés, précis, et qu'on rattache à l'hypersensibilité. D'accord. Et qui permettent de faire ces recherches-là. Okay.
On a parlé des enfants. J'aimerais bien, si tu veux bien, qu'on s'attarde quelques minutes sur les adultes, même si on en a parlé aussi, mais plutôt sur la dimension travail. Aujourd'hui, quelle place, à ton avis, a l'hypersensibilité dans le monde du travail ?
Pour moi, il n'y a pas tant une question de place que qu'est-ce que tu en fais, en fait. C'est-à-dire que elle peut être vraiment une force qui est donnée. Donc, tu parlais des soft skills. Une force pour beaucoup de collaborateurs, mais quel qu'il soit, quelle que soit sa place dans la hiérarchie, etc. Finalement, au-delà du monde du travail, c'est une force. Enfin, ça peut être une force humaine, mais c'est vrai que aujourd'hui, la tendance est à la qualité des relations interpersonnelles, la qualité, des qualités un peu de transparence et de, comment on peut dire, est-ce qu'on parle de reliance aux gens?
Oui.
Tu vois, la qualité des liens, le sens des choses, et c'est vrai que les personnes hypersensibles ont un accès facilité à ça. Dès lors que c'est accepté, intégré, d'accord, etc. Oui.
Donc, ce qu'on disait tout à l'heure quand tu parlais de l'identification, de la prise de conscience, c'est pas ce terme-là que tu as utilisé, mais il m'échappe. Tu disais que la première étape, c'était pour les parents d'identifier, en tout cas de mettre des mots. Finalement, on peut le transposer à l'échelle de l'entreprise, où là, ça pourrait être déjà de la part d'un responsable hiérarchique, d'un manager, qui aurait par exemple dans son équipe un collaborateur hypersensible. Ça serait déjà justement d'en prendre conscience, de l'identifier, de mettre des mots, et pas le vivre forcément comme une faiblesse, mais plutôt comme une force.
Je sais pas. Je pense que le chemin, il est plus du côté de chaque personne plutôt que de l'appropriation par
un sûr. Management. Il faut évidemment que, à la base, ça passe par l'appropriation de la propre personne.
Tout d'un coup, je vois le parallèle avec des situations familiales. Laisse-le, tu sais bien, il est hypersensible.
C'est pas ça.
Tu vas retomber dans des trucs infantilisants dans le monde du travail et qui ne fonctionnent pas non plus à la maison. Tu ne peux pas dire à un autre enfant, laisse ton frère, laisse ta sœur, tu sais bien à quel point il est compliqué. Néanmoins, quand la personne elle-même est OK avec son propre mode de fonctionnement,
bien sûr,
c'est là que ça devient vertueux. Et c'est là que tu peux dire... écoute, moi, ce truc, ça m'a retourné. D'ailleurs, tu le vois, j'ai les larmes aux yeux, je suis fébrile, etc. Et dès lors que tu peux décrypter ça, en fait, c'est en face que tu vas plus avoir la même réaction. Tant que ça, c'est pas accepté par la personne elle-même,
bien sûr,
en face, t'as pas grand-chose de vertueux qui se passe, ou alors c'est presque déséquilibré parce que les managers sont pas... les psys d'une équipe, tu vois, ou le parent protecteur, etc. Mmh,
mmh. Oui, parce que ça devient vertueux à partir du moment où tu réussis à identifier ce que tu peux en faire.
Il me semble.
Et que justement, si tu sais que, par exemple, tu as telle sensibilité sur tel ou tel sujet, peut-être que par moment, ça peut aussi être une force pour l'entreprise, parce que peut-être que telle personne va peut-être... être plus à même de travailler sur tel ou tel sujet, justement en capitalisant sur ces forces-là, sur cette sensibilité-là.
C'est pour ça que c'est plus l'acceptation par la personne elle-même qui est le vrai point.
Mais c'est le point de départ, mais pour moi, l'acceptation des autres aussi est indispensable.
Et l'acceptation, elle passe, à mon avis, par une meilleure connaissance de l'hypersensibilité. Parce que si, encore une fois, tu le rattaches toujours à hypersensible, tu vas rester dans ce domaine de sensiblerie, émotion,
de clichés.
Et plutôt des femmes.
D'accord.
Les 15-20% de la population, c'est pas femme ou homme. Hein, c'est... Il y a une représentation identique des hommes
mixité.
Et des femmes. Voilà, une parfaite mixité sur les chiffres sur l'hypersensibilité. C'est pas qu'une question d'émotion, etc. C'est plus un regard, finalement. Et c'est l'aspect envahissant qui est à accompagner pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement dans les relations, y compris les relations professionnelles. Je le vois plus comme une responsabilité individuelle qu'une responsabilité d'entreprise, même si collectivement, si on porte un regard bienveillant dans l'acceptation de la différence de chacun, finalement, c'est là où tout fonctionne. C'est comme... Moi, je vois vraiment ce parallèle. J'accompagnais, moi, auparavant, les entreprises sur l'intégration des personnes en situation de handicap. Combien de fois on disait ce qui fonctionne pour les personnes ayant un handicap fonctionne et vertueux pour tout le monde. C'est-à-dire que quand tu sais faire pour une différence spécifique, en fait, tu sais faire pour toutes les différences et chacun en a.
Bien sûr.
Dans l'éducation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand tu lis des... Hélène Aron, par exemple, elle a fait une version « Mon enfant est hautement sensible », donc une version pour les parents de ses travaux sur l'hypersensibilité. Ça reste très proche de beaucoup d'ouvrages d'éducation bienveillante, de discipline positive. C'est-à-dire que dès que tu valorises, dès que tu évites de renvoyer à la différence, dès que tu prends soin de ne pas complètement rentrer dedans... Bah, ça marche très bien pour ses enfants, mais ça marche pour tout le monde, en
bien
fait.
Sûr.
Ben, sur l'hypersensibilité en contexte professionnel, c'est un peu la même chose. Si le collectif est plus en capacité d'accepter ça chez l'un, au même titre qu'il va accepter je ne sais pas quelle autre chose chez l'autre, c'est vertueux pour tout
bien
le monde
sûr.
Et c'est tout le système qui devient plus intelligent, donc plus efficient, etc.
Tout à fait, complètement. Bien, et bien écoute, Céline, un grand merci pour ces partages. Tu nous as parlé d'un livre de Hélène Aron. Est-ce qu'on peut le reciter, s'il te plaît ?
Oui, Hélène Aron, aujourd'hui, donc, il est traduit en France, « Hypersensible, mieux se comprendre pour s'accepter », et le sous-titre « Transformer l'hypersensibilité en atout ». C'est je trouve que revenir aux sources, c'est toujours important, donc c'est une des premières à avoir fait des recherches sous cette étiquette-là.
D'accord.
Et il y a un peu un avant, un après ce livre.
D'accord.
Et moi, je le recommande dans le sens où, en même temps qu'elle est sur ce décryptage, elle invite à revisiter des épisodes vécus négativement dans un parcours de vie.
D'accord.
Intégrer la part de l'hypersensibilité là-dedans et de se dire, OK, donc c'est
faire cette... une relecture de la situation.
Et d'accord. Donc, le meilleur diagnostic, c'est plutôt approprié pour des maladies, mais... tu lis ça, tu te reconnais dedans, il y a de fortes chances que tu fasses partie des personnes hypersensibles et donc ça fait vraiment avancer. Et pour les parents, il est beaucoup plus récent, mais elle a écrit « Mon enfant est hautement sensible ». Il est paru, je pense, juste en 2019
d'accord.
en France. Il a été traduit quelques années après avoir été édité aux États-Unis.
D'accord.
Et il reprend... Je l'aime bien parce qu'en fait, sur l'aspect même de l'hypersensibilité, il reprend pas mal d'avancées de la recherche.
D'accord.
Et en plus, il y a... Enfin, ça, c'est les aspects d'intro. Hein. Mais il donne beaucoup d'orientation pour les parents sur comment accompagner un enfant hypersensible.
D'accord.
Avec vraiment deux chapitres différents qui est « Je suis moi-même hypersensible, voilà à quoi je peux faire attention. Je ne suis pas hypersensible, voilà à quoi je dois faire attention. »
D'accord, ok.
Et ça aussi, c'est
précieux. Et ça donne des outils précieux. Très pratiques, très concrets. D'accord. Bien, écoute, merci pour ces partages. Est-ce que tu peux aussi, s'il te plaît, nous rappeler comment on peut te contacter, où est-ce qu'on peut te trouver sur le net, sur les réseaux sociaux, trouver le site de ton entreprise qui s'appelle Paisy.
Oui, donc on peut m'écrire tout simplement à céline@paisy.fr.
D'accord.
Je tiens un blog sur lequel il y a régulièrement des articles sur les enfants hypersensibles et leurs parents.
Très bien.
Qui est hébergé sur le site, donc www.paisy.fr.
Ok.
Et je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, toujours avec Paisy Coaching Parental ou sous mon nom Céline Cyritelis.
Très bien. Eh bien, écoute, merci. Je remettrai toutes ces informations dans les notes de l'épisode. Encore une fois, j'invite ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode qu'on a fait ensemble, qui était l'épisode 19 de la saison 1, je les invite à aller l'écouter, puisqu'effectivement, là, tu nous expliques beaucoup plus en détail ton métier de coach parental ou alors tout simplement de te contacter pour faire plus rapide. Mais encore merci. Et puis, on se donne rendez-vous pour un troisième épisode.
Chiche. Ça marche.
On se lance le défi.
Avec plaisir.
Ça marche. Merci beaucoup, Céline.
Merci à toi.
À bientôt.
À très bientôt.
Rebonjour à tous. Je reviens en deuxième partie d'épisode, comme d'habitude, pour partager encore quelques outils avec vous sur la notion d'hypersensibilité. Alors, comme nous l'avons évoqué avec Céline pendant cette interview, une des clés, ou en tout cas une des premières étapes la plus importante, va être l'identification, la prise de conscience et le fait de faire exister les choses et de les qualifier. Et selon moi, la meilleure façon d'arriver à cette étape, de parvenir à cette prise de conscience, passe par l'information, par la documentation et par la lecture. Alors dans cette deuxième partie, je tenais simplement à vous apporter quelques ressources qui pourront vous être utiles si vous vous sentez concerné par ce sujet. Je vous rappelle les deux livres dont nous a parlé Céline. Ils ont tous les deux été écrits par Hélène Aron. Le premier s'appelle « Hypersensible, mieux se comprendre pour mieux s'accepter » et le second s'appelle « Mon enfant est hautement sensible ». Pour ma part, plusieurs choses à vous recommander. Tout d'abord, le livre « Vive les atypiques », atypiques avec un Z, qui a été écrit par Audrey Acoun et Isabelle Payot, des expertes en pédagogie positive. Audrey, que vous avez d'ailleurs pu entendre dans l'épisode 13 de la saison 1 du podcast, dans lequel elle nous raconte son burn-out et sa reconversion professionnelle. Alors, ce livre, il s'agit vraiment d'un ouvrage qui dédramatise ce phénomène et donne des pistes très concrètes et surtout illustrées de nombreux témoignages qui vont vous permettre potentiellement de vous reconnaître. Ensuite, je voulais partager avec vous un livre qui s'appelle « Itinéraire d'une ultra-sensible », écrit par Charlotte Wiles, qui est coach et psychopraticienne spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles. Et ce livre est tout simplement un témoignage, c'est-à-dire que l'auteur raconte son hypersensibilité depuis son enfance, elle explique son parcours, les difficultés qu'elle a rencontrées, et elle livre également des exercices pour comprendre et en faire une véritable force. Et enfin, je ne peux que vous recommander également les différents livres écrits par Christelle Petit-Collin, qui est écrivaine, conférencière, psychothérapeute et formatrice en communication et développement personnel. Elle a écrit 4 livres. Alors, le premier s'appelle « Je pense trop », le second « Je pense mieux », le troisième « Pourquoi trop penser rend manipulable » et enfin le dernier « Mon enfant pense trop », qui parle du quotidien des parents d'enfants surefficients et hypersensibles. Et elle partage vraiment des solutions simples, concrètes et efficaces pour permettre à ses enfants et aux parents également, du coup, de s'épanouir. Voilà pour ce 22e épisode. J'espère qu'il aura été inspirant pour vous. Je vous rappelle, comme à chaque fois, plusieurs choses. Premièrement, si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de vous abonner sur votre plateforme préférée, de lui mettre une note 5 étoiles ou un avis, de me faire vos feedbacks et vos commentaires et surtout de le partager autour de vous. Et enfin, deuxièmement, si vous souhaitez me contacter ou découvrir les différentes formes d'accompagnement que je propose, vous trouverez toutes les informations sur le sujet en allant directement sur le site www.cbcoach.fr ou vous rendre sur les réseaux sociaux, à savoir la page Facebook CB Coach ou le compte Instagram cbcoach51. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.